18h-19h, 100% synthé, 100% synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Bonsoir, bienvenue, merci d'écouter France Bleu Saint-Étienne-Loire et 100% synthé jusqu'à 19h. On est ensemble, on va parler de foot évidemment, mais pas que, puisque dans le dernier quart d'heure, nous parlerons d'olympisme, de paralympisme. Il y a la semaine olympique et paralympique en ce moment jusqu'à samedi. Nous allons vous parler de ce que c'est ce rendez-vous. C'est pas forcément nouveau, hein, ça date déjà il y a moins 7 ou 8 ans. Et on va également parler avec une de nos athlètes qui pourrait nous représenter, on espère en tout cas, au JO. C'est Amanda Ngandou Ntumba, qui est lanceuse de poids et de disque, qui est licenciée à Rouen et qui a récemment reçu un titre de championne de France. On sera avec elle juste avant la fin de l'émission. Mais côté stéphanois, côté ASS, on va évidemment parler des conséquences de cette belle série que les Verts connaissent en ce moment en termes de résultats. Ça va bien, les Verts sont 3e, mais pour autant, faut-il être confiant pour la montée en Ligue 1? On va en parler dès le début de cette émission avec vous aussi, les supporters, les supportrices. 04 77 10 0010. C'est parti pour 100% synthé.
France Bleu Saint-Étienne-Loire. 100% synthé. 100% synthé. Olivier Rocher.
L'équipe de 100% synthé ce soir, on va commencer avec Gaëlle Epina, supportrice et ancienne journaliste à l'équipe. Bonsoir Gaëlle.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Flavien Neuvy, supporter et propriétaire de la chaîne YouTube Carton Rouge TV, qui est avec nous également. Bonsoir Flavien.
Bonsoir à tous.
Et puis il y a notre consultant Rodolphe Montagnier. Bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Gaël, bonsoir à tous, bonsoir Fred et bonsoir Olivier.
C'est Flavien,
Je fais exprès Fred parce que la semaine dernière je me suis trompé vendredi à Chazelle, j'ai dit bonjour Olivier quand même à Fred. Donc j'ai promis que je rééquilibrerai les choses.
Avec Fred Nicolas,
voilà, Fred Nicolas,
on se ressemble.
Bonsoir, voilà.
Alors on est sur une belle série de victoires, hein, de l'AS Saint-Etienne et plus globalement de matchs sans défaite. L'ASS a consolidé un tout petit peu sa 3e place ce week-end, et ce grâce à la défaite de Laval face à Bastia. Rodolphe Montagnier, je vais commencer avec vous cette émission.
Ouais, je vous vois arriver.
Vous connaissez. Depuis le début de la saison, vous nous dites que vous ne croyez pas en la montée. Est-ce qu'aujourd'hui, 2 avril 2024, 18h08, après cette série en cours, est-ce que vous avez changé d'avis?
Chaque soir de Ligue 2, je me pince un petit peu avant de me coucher quand même pour regarder le classement, parce que je me dis c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et j'y crois pas encore, j'avoue, je le dis encore ce soir, effectivement. Alors, manifestement, on va terminer dans les 5 premiers, ce qui déjà pour moi est quasiment inespéré. Donc je dis petit miracle. Quand je dis qu'on peut encore prendre une des 2 premières places, ben voilà, je me pince tous les jours. Et honnêtement, la prestation de Valenciennes n'est pas pour me rassurer une fois de plus. Moi, j'ai trouvé que les Verts ont été sérieux, consistants, durant 45 minutes. Après, je les ai trouvés un peu plus légers. D'ailleurs, j'ai entendu Olivier Dalloglio qui, lui aussi, s'inquiète un petit peu de cette attitude sur la seconde période. Voilà, moi, il ne me donne pas le sentiment d'être une équipe qui, l'année prochaine, une fois de plus, jouera en Ligue 1. Donc, c'est pour ça que... Alors, on est en Ligue 2, je sais bien, mais il y a quand même ce sentiment que j'ai vu des prestations plus consistantes d'autres équipes. Alors, évidemment, Auxerre, peut-être Angers de temps en temps, mais même Laval. J'ai même vu Grenoble plus consistant. Voilà, je ne suis encore pas convaincu. J'arrive pas à me dire aujourd'hui que cette équipe-là jouera en Ligue 1 la saison prochaine.
Vous faites peut-être un déni, hein, je sais pas.
Ah, mais peut-être. Mais attendez, et je le répète, je le redis, je crois que je le dis tous les lundis. Mais j'espère me tromper, mais aussi vous savez combien j'espère me tromper. Oui, ben les mardis si vous voulez, les mardis également.
Donc toujours pas pour vous, vous n'y croyez pas.
Non.
Mais alors je me tourne vers vous. Alors,
mais j'espère me tromper, mais vraiment j'espère.
Avant d'avoir l'avis de Flavien, vous Gaël, est-ce que vous comprenez le sentiment, la réserve, le pessimisme de Rodolphe, ou vous êtes tout à fait dans un autre état d'esprit?
Moi je le comprends tout à fait, parce que effectivement depuis quelques années quand même, la SS nous a obligé à être toujours pessimiste, parce que sinon on est toujours vraiment très triste. Mais là, moi j'y crois quand même, et j'y crois justement pour ce genre de match comme Valenciennes, où est-ce qu'une équipe qui monte en Ligue 1, c'est pas une équipe qui sait des fois être mauvaise et quand même conserver son score. Ils ont su marquer tranquillement en première mi-temps, tenir le score. S'ils devaient cravacher chaque match jusqu'à la 90e pour arracher des victoires, là, je serais plus dubitative, mais ça veut dire que même un peu en roue libre, ils sont assez solides maintenant pour faire ça, donc j'y crois. Après, je trouve que Concarneau est quand même hyper important, parce que là, clairement, c'est parfaitement le jour où il pourrait nous décevoir, parce que le stade sera plein, parce que c'est les 90 ans du club, il y a le défilé avant, enfin on va tous être chaud. Et là vraiment, c'est le jour parfait pour se planter pour la SS, comme on les connaît depuis quelques années encore une fois.
Donc, ce qui s'était passé début novembre pour les 90 ans officiels organisés par le club, là c'est par trois groupes de supporters. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu peur par rapport à ce qu'on a vécu il y a 6 mois, même pas 6 mois. Flavien, alors je vous demande pas de faire l'arbitre, Flavien, mais de nous donner votre avis là-dessus. Mmh. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Gaël, de Rodolphe, ou vous avez peut-être un troisième côté à nous apporter?
Non, moi je suis plutôt optimiste. C'est vrai que j'étais pas optimiste depuis le début de saison. À l'intersaison, si on m'avait posé cette question-là, franchement, j'aurais pas misé un centime sur le fait qu'on puisse jouer les 5 premières places. Donc c'est vrai que c'est déjà en soi très très réconfortant de se dire qu'on est dans les 5 premiers et que on creuse même un peu l'écart avec nos poursuivants. Ça, c'est un point très positif. Et là, je me mets à y croire. Il y a deux raisons principales. Il y en a plein, mais les deux principales, d'abord, c'est la grande solidité défensive. C'est quand même incroyable. On ne prend pas de but, la meilleure défense du championnat, et en Ligue 2, on sait que c'est essentiel d'avoir une très bonne défense. Franchement, c'est costaud derrière. Et le deuxième point, c'est que devant, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence à tout moment, que ce soit Sissoko ou Cardona, qui est venu vraiment apporter un plus sur cette deuxième partie de saison. Donc je reste très optimiste. Et le dernier point, peut-être, c'est que on a quand même une dynamique qui est très positive. Et nos adversaires, je pense qu'aujourd'hui, que quand ils rencontrent Saint-Etienne, ils sont beaucoup plus prudents que par le passé. Et l'aspect psychologique est aussi très important.
Vous pouvez nous donner, vous aussi, vous supporters, supportrices, au 04 77 10 00 10, votre avis là-dessus. Est-ce que vous comprenez quand même la réserve de Rodolphe, ou vous faites partie plutôt des optimistes? 04 77 10 0 0 10. C'est pas mal aussi cet argument du fait qu'on a une certaine solidité défensive, Gaël. On est la meilleure défense du championnat. Ça fait peut-être partie des arguments qui vous rassurent, en tout cas qui vous donnent envie d'y croire.
Bah c'est vrai que là, on se dit pas qu'on a marqué 3 buts pour gagner un match. Donc ça change par rapport à l'année dernière, où même quand on était mieux en début d'année 2023, c'était quand même un peu compliqué au niveau défensif. Là oui, on est assez serein même quand il y a des actions adverses, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc ouais, ça fait partie. Bah on a non seulement une bonne défense et une bonne attaque, donc c'est quand même beaucoup mieux que les derniers mois, donc c'est pour ça que j'y crois, moi.
Alors, peut-être un avis encore supplémentaire qui peut faire également l'entre-deux entre Rodolphe, Gaël et Flavien, entre trois donc. Il y a Abdella à Digne-les-Bains, qui est un auditeur fidèle de 100% Santé, qui est réputé pour son optimisme. Abdella, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Abdella.
Bonsoir. Alors Abdella, vous avez une petite nuance à apporter sur la question qu'on se pose ce soir.
Ben moi, la nuance, c'est que on n'a plus le choix. On a grillé tous nos jokers. Angers a 2 points d'avance. Donc nous, il faut qu'on gagne nos matchs. On n'a pas le choix. Avec qui que ce soit, sur le banc, sur le terrain, il faut qu'on gagne nos matchs. Parce que faut attraper cette deuxième place. Parce que les barrages, pour moi, on passera pas. On ne passera pas dans la mesure où on a des trous d'air, comme là la deuxième mi-temps. Bon, vous allez me dire que Valenciennes pensait à Lyon, nous on pensait à récupérer. Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que les barrages, c'est un marathon émotionnel. Et jusqu'à maintenant, il y a toutes les Ligue 1 se sont sauvées en jouant les barrages. Sauf qui ? Sauf nous. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que là, à Saint-Etienne, on doit absolument gagner tous nos matchs pour essayer de monter.
Restez avec nous, Abdella, on va vous répondre, on va échanger avec vous sur cette question-là. Oui, si on est dans les deux premiers, non, si on passe par les barrages. On aura l'avis de Flavien, de Gaël, de Rodolphe également. Et comme Abdella, vous pouvez nous appeler pour échanger autour de cette question-là. La confiance en la montée, 04 77 10 00 10, à tout de suite.
100% Synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
France Bleu Saint-Étienne-Loire vous invite au nouveau spectacle du Chœur du Pilat. 90 choristes reprennent les plus grands tubes de la chanson française et internationale. Jean-Jacques Goldman, les Beatles, Céline Dion ou encore Francis Cabrel. Et bien sûr, Johnny Hallyday. Le Chœur du Pilat retrace 40 années de chansons à l'écluse de Lorette du 5 au 7 avril. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Saint-Étienne-Loire.
France Bleu Saint-Étienne-Loire. Olivier Rocher. 100% synthé. 100% synthé. Olivier Rocher.
avec Gaël, Flavien, Rodolphe pour l'équipe de 100% Synthé ce soir, et puis Abdella, supporter également, qui nous a appelé au 04 77 10 00 10, qui lui il croit, si on est en gros dans les deux premiers, donc montée directe, mais en passant par les barrages, on se gaufrerait visiblement. Je peux comprendre à titre personnel son inquiétude. J'ai un peu peur de ce système de barrage pour la Saint-Étienne, mais bon, voilà, c'est peut-être parce que j'ai connu des illusions par le passé que j'ai un petit peu peur. Abdella, on va essayer d'échanger avec vous autour de cette question-là. Je vais commencer par vous, Flavien. Est-ce que vous, quoi qu'il arrive, vous y croyez même avec les barrages? Ah, on n'a plus Flavien. On n'a plus Flavien. On va essayer de le retrouver, Flavien.
Bah, déjà, quand même, il faut préciser une chose, c'est que le système. Si, je suis là. Oui, allô.
Allez,
vous m'entendez pas?
Parfait, tout va bien.
Allô.
Allez-y, Flavien.
Ah, pardon, excusez-moi. Non, je disais juste, sur les barrages, il faut juste rappeler que les play-offs, en fait, le fait de terminer troisième serait très important si on était dans l'optique des barrages, parce que ça permettrait d'abord au quatrième et au cinquième de se rencontrer, et puis surtout, face à ce vainqueur-là, on jouerait à la maison. Et donc, oui, c'est vrai que sur les barrages, on n'est pas très très bon, on n'a pas été bon, effectivement, face à Auxerre. Pour autant, le football est ce qu'il est, et un match de barrage, bah, tout peut arriver. Avec la Ligue 1, ce sera un match aller-retour, donc j'ai envie de dire qu'il y a trois mois, j'y croyais pas du tout. Je croyais même pas au barrage, donc ne serait-ce que le fait d'être en barrage, ce serait déjà beau.
Gaël, vous, là-dessus, sur ce que nous dit Abdella autour de cette inquiétude autour des barrages?
Effectivement, je pense que l'équipe de la SS d'aujourd'hui aurait battu l'équipe de la SS d'il y a deux ans en barrage, hein, donc je pense qu'on peut pas trop comparer, parce que c'était cataclysmique en fait à cette époque-là, donc oui, non, je pense que les barrages, ce serait un coup dur, mais effectivement, faut pas oublier d'où on vient après Dunkerque. Déjà, si on nous avait dit qu'on terminait cinquième, ce serait complètement fou. C'est sûr. Là, on espère être deuxième et on serait déçu de pas être deuxième, donc faut quand même avoir ça en tête, ne pas oublier que l'objectif, effectivement, ce serait quand même beaucoup mieux d'être deuxième, mais troisième, moi j'y crois quand même, et puis ça nous ferait des matchs de plus à voir, et en ce moment ils sont quand même plutôt plaisants à voir, donc ça ferait une sacrée ambiance quand même si on fait la montée à la maison pendant un barrage, quoi.
Et troisième, c'est un match en moins de barrage, donc ça c'est,
ouais, c'est important.
Ouais, c'est important.
Ma petite bémol, il est là. Moi, 4-5e, non, je veux surtout pas ça. 3, je trouve que ça se discute, surtout sur la, alors c'est encore un peu loin, parce qu'il reste encore plus d'un mois de compétition, voilà, 8 matchs, 2 mois quasiment. Donc, quel état seront les effectifs des équipes respectives? Donc, mais quand même, cette place de 3e, j'ai envie de croire. Puis surtout, moi, en fait, vous avez dit, Gaël, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai surtout pas envie de me dire, au soir de la 38e journée, si j'avais eu un point de plus, je serais en Ligue 1. C'est ça que je vais trouver terrible. Si vous êtes 3e et que vous savez qu'à un point près, vous nous auriez pu chipper cette seconde place, je crois que ça va être terrible. Et là, aborder les barrages dans ces conditions, je trouve que c'est terrible. C'est ça qui dure, en fait. C'est qu'il faut, je crois que vous avez, enfin, Abdel a raison, il faut absolument terminer dans les deux premiers. On risque d'avoir tellement de regrets, mais tellement de regrets après le parcours qu'on a eu que, et voilà, c'est peut-être pour ça, bon, vous disiez tout à l'heure, c'est un déni, parce que c'est ça, j'ai pas envie de me dire 3, 4, 5, non. 2, 1, 2, j'y crois plus, et j'y crois pas, j'y ai jamais cru, mais 3, 4, 5, surtout pas.
Sébastien est avec nous à Annonay. Bonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir à vous.
On a le champion de l'optimisme, Sébastien. Visiblement.
De l'optimisme ou du réalisme, puisque finalement, depuis quelques semaines, la réalité ne me donne pas tort.
Mais, vous visez quoi? Vous, pour vous, c'est quoi?
Alors pour moi, je pense que les Verts vont être champions de France. Ouais. Parce qu'on est qu'à 7 points, on est qu'à 7 points du premier. Il y a 24 points à prendre. Il suffit de deux matchs nuls, notamment d'Auxerre, et c'est bon. Je pense qu'on va faire carton plein. Partis comme ils sont partis. En face, c'est pas le Barça, on n'a pas le Real ou quoi. Franchement, il y aurait peut-être Bordeaux, éventuellement Grenoble à gérer, mais je pense que d'autant plus qu'on n'a pas de blessés. On n'a pas de blessés notoires. On n'aura que Masson, je crois, qui sera absent le match dans deux matchs. Ouais. Et voilà. Et puis je pense que aussi, on voit vraiment les joueurs. J'étais aussi à l'entraînement. Il y a une amitié qui est en train de naître. Le groupe vit très bien. Ouais, une solidarité, une spontanéité dans l'entraide. Les gars sont, on sent qu'il y a une amitié entre chacun et la force du groupe. elle est là, elle est présente et à mon avis, voilà, on est sur une rampe de lancement là. Il y a plus que désormais 8 matchs et voilà. Moi, je prends ce pari, ouais, qu'on va être champion. Et comme bon, j'avais pu dire une fois, mais c'est comme à l'école. Il faut viser le 20 sur 20 si on veut espérer avoir 15. Si on joue petit bras raccourcis, on veut avoir 10, 12 sur 20, on aura 5. Et vaut mieux regarder devant que regarder derrière et se mettre la peur au ventre. Mais non, vaut mieux dire que voilà, on va aller chercher cette première place et enfin voilà, pour moi ça fait aucun doute.
Enfin,
j'ai pas l'ombre d'un doute pour ma part.
Juste pour dire à Sébastien que si jamais vous voulez jouer Saint-Étienne champion, dépêchez-vous d'aller le jouer. Je crois que Auxerre est à 95% à 95% de chances d'être champion au moment où on parle. Statistiquement, alors vous avez raison, le sont des chiffres et ça se combat toujours. Mais dépêchez-vous d'aller jouer, la cote doit être belle.
Flavien, on entend l'optimisme ou le réalisme, comme il l'a dit de Sébastien. Il y a un truc, on l'a un petit peu évoqué, mais on n'a pas toutes les cartes entre nous. Mais on peut faire carton plein jusqu'à la fin de la saison, mais il faut que les autres se vautrent à un moment donné, quoi.
Oui, c'est vrai. Et puis, il faut aussi rappeler un autre élément, c'est que on a vu les dernières saisons que le deuxième de Ligue 2 avait souvent autour de 69-70 points. Pour le dire autrement, même si on gagne tous nos matchs, on sera autour des 66 points de mémoire. Et donc, on voit bien que on n'a pas de droit à l'erreur, nous, de notre côté. Et quand bien même on gagnerait tous nos matchs, effectivement, il faudrait que Angers fasse un faux pas. Donc, ça va être une fin de saison qui va être absolument palpitante, avec un groupe, et cela vient d'être dit par votre auditeur, qui vit bien et qui est dans une très bonne dynamique, et puis un stade qui se remplit bientôt à chaque match. Donc on va vraiment vivre une fin de saison palpitante, mais c'est vrai qu'on attendra quand même avec impatience un faux pas d'Angers. Puis il faudrait peut-être que Loïs Diony arrête de marquer but sur but pour Angers. Il faudrait qu'il soit un peu sympa avec nous quand même.
Avec nous, il marquait pas. Alors là, il marque tout le temps. Non Loïs, non. Sébastien, son optimisme, j'imagine que Gaël, vous signez.
Moi je signe, mais j'étais en train de me dire, en fait on a quand même un avantage par rapport à Angers malgré les deux points d'écart, c'est que il y a beaucoup de matchs qu'on joue avant eux et en fait c'est nous qui leur mettons la pression, parce qu'à chaque fois, comme samedi, effectivement pendant quelques heures ils savaient que s'ils perdaient, ils perdaient la deuxième place. Donc c'est vrai que les deux prochains matchs, ça peut être si chaque samedi on leur met la pression, même si deux trois fois ils arrivent à repasser devant, peut-être que le doute va finir vraiment par arriver et qu'on pourra arriver à nos fins nous aussi.
Prochain match d'Angers, je crois que c'est Angers-Laval, hein.
Oui, ça
semble-t-il.
Hein. Il va être agité.
Ils vont perdre tous les deux.
Une fois que vous avez gagné contre Concarneau, voilà, vous êtes entre Angers-Laval, c'est pas mal.
Non, ça va être très intéressant comme match à suivre. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir donné cet optimisme-là, évidemment. Il faut rêver. Joueur champion de France de Ligue 2, ça serait vraiment chouette, évidemment. Mais avant, il faut gagner tout ça. On va évoquer un autre sujet dans un instant, c'est la gestion des défenseurs centraux. Il y en a trois, mais on joue avec deux seulement. Donc il y a une gestion à faire et qui, pour le moment, fonctionne. On va en parler avec vous aussi au 04 77 10 00 10. Put on your red shoes and dance the blues. Look into my eyes. Dance. Ça sera peut-être le 17 mai, au soir. On sera en Ligue 1, n'est-ce pas, Rodolphe Fontanier?
Avec grand plaisir.
David Bowie sur France Bleu Saint-Etienne. Alors, Rodolphe Fontanier est avec nous. Gaëlle Épina, supportrice et ancienne journaliste de l'équipe, est avec nous également. Et Flavien Devy de la chaîne YouTube et aussi le profil X Twitter. C'est Carton Rouge TV. Flavien Devy qui est avec nous également dans 100% Saint-Etienne. J'aimerais qu'on évoque un secteur du jeu. C'est vrai que c'est toujours la question qu'on se pose chaque semaine maintenant. C'est qui va jouer en défense? En défense centrale, évidemment. Parce que sur les côtés, globalement, c'est acté. Sauf, évidemment, quand Yvan Masson sera suspendu à Ajaccio. Qui mettre à droite? Parce que sûrement que Denis Rapia ne sera pas forcément revenu de blessure. Mais ça sera un autre sujet plus tard. Mais la défense centrale, on joue avec deux défenseurs centraux.
Plus tard, ça va vite. Hein.
Oui, ça va vite. Et on a trois titulaire en puissance, en fait. Hein. Je les rappelle quand même. Anthony Briançon, le capitaine, Michael Nadé et donc Dylan Batoumine-Sika. Là, c'était Nadé Briançon. La semaine dernière, avant la trêve, pardon, c'était plutôt un Nadé Batoumine-Sika. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, ça a l'air de fonctionner puisqu'on est meilleure défense de Ligue 1. Ligue 2, oula, ouf! Je me projette déjà.
Je me projette.
Gaëlle, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de ces défenseurs à la SS?
Eh ben sur le papier, on se dit toujours que c'est pas bon du tout parce qu'une défense doit être doit avoir des automatismes, ne doit pas bouger. Mais dans les faits, effectivement, depuis qu'il fait ça, ça marche très bien parce que parce qu'on se prend quasiment pas de buts, ce qui est quand même le plus incroyable. Et là, tout à l'heure, Rodolphe, vous parliez de parier rapidement. Mais alors, si quelqu'un en début de saison avait parié que Michael Nadé serait le défenseur central le plus utilisé en 2024. Je pense qu'il peut se payer de belles vacances. C'est quand même vraiment mais improbable. Mais c'est logique en fait parce qu'il joue bien quoi. Donc de dire cette phrase aussi est improbable. Mais le fait est que ça marche bien et que si ça marche bien depuis quand même pas mal de en gros depuis la CAN quoi. Enfin depuis le retour de la CAN et le retour de Batoubine-Sika où on a compris que c'était vraiment des choix. Je pense qu'il a raison de continuer, Olivier Dalloglio, et puis il l'assume tout à fait. Il l'a bien assumé après le match samedi. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien en fait.
Flavien, Rodolphe, vous répondrez à Gaëlle dans un instant. On va continuer sur ce sujet-là. Vous pouvez nous appeler, vous aussi, les supporters, la supportrice, 04 77 10 00 10. Un numéro que vous allez devoir composer dans les instants qui viennent, puisqu'on va jouer ensemble dans quelques minutes pour gagner des places pour l'Arena et le match de handball entre l'équipe de France, championne du monde et championne olympique en titre, face à la Lettonie. C'est un match de qualification pour l'Euro 2024. 04 77 10 00 10. Le numéro à composer dans quelques instants pour jouer ensemble. À tout de suite.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% Saint-Té, jusqu'à 19h. France Bleu présente les 48 heures BD, les 5 et 6 avril. Bande dessinée, manga, comics, la BD est en fête chez votre libraire. Pour partager bonnes idées et plaisir de la découverte, retrouvez une sélection de 15 albums à 3€ dans les 1700 librairies participant à l'événement. Et aussi des centaines d'animations partout en France. Les 5 et 6 avril, la BD est en fête partout en France avec les 48 heures BD. Avec France Bleu.
Bijoux, textiles, émaux, travail du verre ou du bronze, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, découvrez des savoir-faire revisités par les étudiants de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne et des écoles d'art de Bratislava, Bruxelles, Montréal, Porto et Tétouan. Du vendredi 5 au dimanche 7 avril, l'exposition Travaux en cours présente une large palette de créations réalisées en atelier dans le cadre du programme de recherche européen Arts and Crafts aujourd'hui. Vernissage le 4 avril. Info sur citedudesign.com.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Saint-Étienne-Loire, ici, on parle d'ici.
18h31, un mot sur votre météo. Gris et pluvieux demain matin, mais ensoleillé demain après-midi. Des températures qui seront douces. Alors le matin, pas trop fraîche déjà, c'est pas mal. 4 à 9 degrés selon l'altitude où vous vous situez. Puis jusqu'à 17 degrés sur l'ensemble des basses altitudes de la Loire. 14, par exemple sur le Puy-en-Velay, entre 10 et 12 sur le relief. Côté circulation, ça se fluidifie, ça va mieux qu'il y a une demi-heure. Mais c'est toujours un peu chargé, un peu dense. En tout cas, sur les trois rocades de Saint-Étienne, sur les secteurs Couramio, de Londres. Fontaine également, mais aussi d'Andrézieux Boutéon. 04 77 10 0010 pour nous partager vos observations sur la route.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, 100% synthé. Olivier Rocher.
Avec Gaëlle Épina, avec qui est supportrice des Verts, avec Rodolphe Pontanier, qui est notre consultant France Bleu, puis Flavien Neuville, la chaîne YouTube Carton Rouge TV. Flavien, justement, pour rebondir sur ce que disait il y a un instant, Gaëlle, autour de la gestion des défenseurs centraux, comment vous la jugez, vous, en tant que supporter, en tant qu'observateur, la gestion d'Olivier Dalloglio des trois défenseurs centraux de la SS?
Eh ben, j'ajuste très étonnante. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Gaël. C'est-à-dire que d'une part, une défense centrale, on a pour habitude de dire que si elle fonctionne bien, il faut pas la faire tourner parce qu'il y a des automatismes et que ça fonctionne bien entre le gardien et les milieux de terrain récupérateurs. Et là, il y a une rotation qui s'effectue et ça marche très bien. Et puis effectivement, Mickaël Nadé, qui fait une saison exceptionnelle, il faut quand même le dire, et qui était vraiment loin d'être le favori pour la défense centrale. Après, c'est vrai quand même qu'on a des défenseurs centraux de très très bon niveau, je trouve. Bien sûr, le capitaine Anthony Briançon qui fait preuve d'un état d'esprit assez incroyable, et puis Batu Pisinka qui a été une recrue excellente, je trouve. Donc c'est vrai qu'on a on a cette chance là et ce que ça offre à Olivier Dalloglio, c'est que même s'il y a un absent, un blessé ou un suspendu, bah en défense centrale c'est pas la catastrophe, alors que sur les côtés, effectivement, bah il y aura la suspension de Masson, l'absence de Appia, on sent qu'on est un petit peu plus fragile sur les côtés.
Rodolphe, vous, est-ce que ça vous étonne, vous aussi, cette gestion?
Moi, je sais qu'on en rigole chaque fois avec les gens d'envers et contre tous, parce qu'on s'amuse sur cette défense centrale à trouver les on ne trouve jamais d'ailleurs, quasiment. Une fois ou deux,
c'est tellement rare.
Mais oui, je trouve que c'est tout à mettre au crédit d'Olivier Dalloglio, pour le coup. Parce que avant qu'il arrive, on n'était pas du tout sur cette alternance. Et il a su parfaitement réintroduire Mickaël Nadé. Je viens d'entendre Mickaël Nadé, donc, très excellente saison, exceptionnelle saison. Et puis Mickaël Nadé, parmi les titulaires. Enfin, je veux dire, comme vous disiez, Gaël, c'est sur des phrases que je m'attendais jamais. Enfin, j'aurais jamais cru entendre ça. Effectivement. Et moi, j'étais plutôt convaincu par Mickaël Nadé au départ. Donc, j'étais toujours plutôt un défenseur de Mickaël Nadé. Je pensais quand même pas qu'il était à ce niveau-là non plus, néanmoins. Mais voilà, je trouve que toute l'intelligence d'Olivier Dalloglio, c'est d'avoir su dire à ses joueurs d'expérience, comme Dylan Batubinseka et surtout Anthony Briançon, je trouve. Mais là aussi, on va peut-être parler de la notion d'âge. 28 et 29 ans pour ces deux joueurs-là. Un peu plus d'expérience, ils ont plus cette envie de jouer qu'ont les jeunes, où ils veulent absolument se montrer. Donc, je crois qu'il a su, Olivier Dalloglio, et juger et discuter avec ces joueurs-là en leur disant: c'est pas grave si tu joues un peu moins, mais en même temps, ça va permettre, c'est pour tout le monde, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Et je crois que tout le monde a été assez intelligent pour le comprendre. Mickaël Nadé plus facilement parce qu'il est jeune et qu'il a pu jouer. Et les autres, parce qu'ils ont besoin aussi de souffler un petit peu. Dylan Batubinseka parce qu'il est allé à la Coupe d'Afrique des Nations. Anthony Briançon parce qu'il s'est blessé. Toute l'intelligence d'Olivier Dalloglio, elle est là. Dans ce discours, dans cette méthode qu'il a obtenue avec ces joueurs-là. Savoir équilibrer entre leurs qualités, leurs absences éventuelles, leurs blessures, et également leur envie de jouer. Toute l'intelligence, une fois de plus, elle est là. Et je crois que chaque semaine, elle est remise en cause. Et il doit en discuter avec eux chaque semaine. Je pense qu'il est comme nous, finalement. Quand on est le lundi, il se démarre et il ne se dit pas samedi, ce sont ceux-là qui jouent. Il voit plutôt ça le vendredi soir, à mon avis.
Vous êtes d'accord avec ça, Flavien? Vous, un choix de dernier moment?
Oui, il y a un élément qui est très important. Il l'a dit d'ailleurs, Olivier Dalloglio. Il a dit que les entraînements étaient importants et que je pense que la façon dont les entraînements se déroulent la semaine, ça a un impact sur la composition. Et c'est vrai que c'est assez nouveau puisque jusqu'à présent, on avait plutôt l'habitude d'avoir un 11 type avec des joueurs assez sûrs de jouer d'une semaine sur l'autre. Alors que là, à chaque fois, c'est un peu l'incertitude. Ça rappelle aussi quand même que la gestion du groupe par Olivier Dalloglio est plutôt excellente. C'est-à-dire qu'il arrive à expliquer ses choix à ses joueurs. On sait qu'un joueur qui se retrouve sur le banc, c'est quand même jamais facile, même si effectivement quand on est plus âgé on a peut-être un peu plus de recul, mais il arrive à gérer son groupe, il arrive à expliquer pourquoi il fait cela, et c'est accepté par tout le monde, donc on a juste à dire bravo là en l'occurrence.
Gaëlle?
Bah, c'est vrai que Olivier Dalloglio a su relancer quand même plusieurs joueurs qui étaient complètement aux fraises ces derniers temps, Nadé évidemment, mon conduit aussi, et c'est intéressant, ça prouve que c'est quand même un vrai effectivement meneur d'hommes. Maintenant, du coup, moi, je me demande en termes d'intelligence humaine, quelle sera sa tactique justement par rapport à l'absence de Masson. Est-ce que il va la préparer dès samedi? Est-ce que si le score le permet, il le ferait sortir pour faire rentrer un des jeunes? Voilà, du coup, c'est la question que je me pose par rapport à Dalloglio.
On va voir ça au fil des semaines, comment il va gérer cette défense centrale. Pour le moment, ça fonctionne très
juste
bien.
Juste un mot pour dire, parce que Gaël, elle disait, il a su gérer ces joueurs-là. Il a su aussi dire à certains, dehors, parce que Benjamin Bouchouari aussi, hein, c'est un titulaire à part entière, et il est assis sur le banc touche depuis son arrivée. Il sait faire des choix importants.
Le week-end dernier, c'est assez incroyable. On a déjà parlé de la situation de Benjamin Bouchouari qui a changé du tout au tout. Merci beaucoup Flavien Novi.
Merci Flavien.
Merci à vous. Merci.
Allez, bonne soirée. À très bientôt dans 100% Synthé. C'est comme ça qu'on termine cette page football. Et on va passer au handball.
Sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, soutenez les féminines de l'équipe de France de handball à l'Arena.
Et vous gagnez maintenant. On va jouer ensemble avec un petit jeu. Faut savoir viser. À gauche, à droite, au centre. Vous nous appelez 04 77 10 0 0 10. Si vous visez correctement, eh bien, vous aurez vos places pour cette rencontre qualificative pour l'Euro 2024. Pardon, c'est la France contre la Lettonie. Les champions du monde et les champions olympiques en titre à l'Arena Saint-Etienne Métropole. Appelez-nous maintenant 04 77 10 0 0 10 pour jouer avec nous dans 3 minutes juste après Zao de Sacazan sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, la symphonie des éclairs.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Sao de Sacazan et la symphonie des éclairs sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Brigitte est avec nous à Saint-Étienne. Bonjour Brigitte, ou bonsoir même à 18h40.
Bonsoir.
Vous allez bien Brigitte?
Ah oui, ça va, il fait beau, ça va toujours bien.
On vous accueille dans l'Arena Saint-Étienne Métropole. On se met dans l'ambiance déjà avant le match des Bleus, match de qualification à l'Euro 2024 face à la Lettonie. Hein, je vous rappelle, c'est dimanche à 18h. Je vous rappelle un peu le contexte, hein, quand même, la France est championne du monde, tout récemment, hein, en plus. Et en plus, elles sont championnes olympiques. Les Françaises en titre, elles vont défendre leur titre à Paris dans quelques mois. Mais avant ça, il y a un petit tour de chauffe, dimanche à 18h contre la Lettonie. Si vous voulez aller assister à ce match, soutenir les Bleus, il va falloir marquer un but. Dans les cages de handball, en plus en plus petite que celle du football, hein. Le gardien ou la gardienne prend beaucoup de place. Donc vous avez trois choix. Mais deux possibilités, si vous en ratez une, on peut retenter la chance derrière. Est-ce que, pour la première tentative tout du moins, est-ce que Brigitte, vous voulez tirer au centre, à droite ou à gauche? Qu'est-ce qui vous inspire face à vous là?
À gauche.
À gauche?
Oui.
Allez, on y va, on tire à gauche. Ah, raté. Le ballon a été arrêté, Brigitte. Il reste encore une tentative. Attendez, il reste une tentative.
Oui.
Alors, vous pouvez retirer à gauche, ou changer, aller à droite, ou tirer au milieu. Qu'est-ce que vous choisissez?
Je tire à droite.
À droite, vous êtes sûr?
Bah oui.
Parce qu'à gauche, ça n'a pas marché, du coup, on teste à droite?
Bah oui, parce que tu as des bonnes à gauche, la gardienne.
Ah ouais, vous avez raison. Ah non, mais c'est, on peut essayer comme ça. On va voir si ça fonctionne. Allez-y, tirez.
Je tire à droite.
Oui! Bah oui, Brigitte, c'est à droite, c'est beaucoup mieux. Bravo, Brigitte.
Merci.
Brigitte, vous serez à l'Arena Saint-Etienne Métropole eh bien, ce dimanche soir, 18h, pour le match entre la France et la Lettonie. Match de qualification à l'Euro 2024. Bravo, Brigitte.
Oui. Et alors, je fais comment?
Eh bien, vous ne quittez pas. Sabrine va tout vous expliquer hors antenne, d'accord?
D'accord. Et ça tombe bien parce que j'étais gardienne de but en handball, moi.
C'est pas vrai.
Comme nationale.
Et vous avez joué où?
J'ai joué au Cercle Paul-Berthelin et au Sceau d'Angers.
Ah, pas mal, très bien, pas mal. Voilà. Et vous étiez plutôt à l'aise à gauche ou à droite, du coup, dans les cages?
J'étais gardienne de but, mais je faisais très attention au but à rebond, parce que c'est ceux-là les plus difficiles.
Et oui, surtout quand il y a des petits effets qui sont donnés dans le ballon.
Bon. Oui, lucarne, parce que j'étais pas très très grande, donc les grandes filles qui tiraient en lucarne, c'était pas facile non plus, mais bon.
Passez un bon match dimanche soir, Brigitte. Et je vous dis à très bientôt sur France Bleu Saint-Étienne Loire.
Merci beaucoup.
Au revoir. Dans un instant, on se met dans l'ambiance olympique. Aujourd'hui commence la semaine olympique et paralympique avec Caroline Charles, qui est chargée de communication au comité départemental olympique et sportif. Elle est aussi ambassadrice de cette semaine olympique et paralympique. Qu'est-ce que ça veut dire? On va tout savoir avec elle dans un instant sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
France Bleu Saint-Étienne-Loire vous invite à une soirée 100% Queen. Le 6 avril, l'escale de Vauche résonne au son de l'un des monuments du rock britannique et de ses plus beaux titres, des célèbres. Au moins connu, vivez la vraie expérience Queen avec le groupe Hommage Regina. Alors, prêt à rocker? Le concert de Regina, samedi 6 avril, à 20h30 à l'escale de Vauche. Gagnez vos places sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% synthé, Olivier Rocher.
Allez, dans un instant, nous allons avoir le plaisir, nous aurons le plaisir d'avoir Amanda Ngandou Ntumba, qui est championne de France de lancer de poids, de disque, et qui va tenter sa chance pour aller aux Jeux Olympiques. Mais d'abord, justement, on se met dans l'ambiance olympique, et la semaine olympique et paralympique, ce n'est pas une nouveauté pour les Jeux de Paris, c'est déjà, ça fait quelques années hein, que ça existe, c'est la 8e édition. Nous en parlons avec Caroline Charles, chargée de communication au comité des départemental olympique et sportif de la Loire. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Caroline, finalement, quel est le but de cette semaine olympique et paralympique?
Alors, c'est assez simple, c'est vraiment de promouvoir le sport et les valeurs olympiques et paralympiques de la maternelle à l'enseignement supérieur auprès de tous les élèves de France. Voilà.
Ça, c'est un but très simple, en effet. Et alors, vous, Caroline, vous êtes aussi ambassadrice de cette semaine olympique et paralympique. Ça veut dire quoi, finalement, et quel est votre rôle?
Alors, on a été désigné ambassadeur sur toute la France en fonction des académies. Donc, on a environ 40 ambassadeurs sur la France. C'était simplement une vidéo en fait de présentation de nous-mêmes et on a été sélectionné ensuite par Paris 2024 pour jouer ce rôle-là. Donc, notre but, c'est vraiment de promouvoir la semaine olympique pour tous les acteurs scolaires déjà, auprès des professeurs, des élèves, mais aussi auprès des collectivités territoriales, notamment celles qui sont labellisées Terre de Jeux, donc en rapport avec les Jeux Olympiques, et aussi auprès du mouvement sportif du coup local avec qui on travaille.
Rodolphe,
concrètement, ça veut dire qu'il y a des actions qui sont organisées dans les collèges, dans les établissements, qu'est-ce qui se passe exactement? Donnez-moi un exemple, s'il vous plaît.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est les collèges, les établissements ou les collectivités qui déposent leurs projets sur la plateforme SOP. Ils sont ensuite référencés donc sur une carte interactive. Ils renseignent leurs projets, donc combien d'élèves, quels thèmes sont abordés, est-ce qu'ils incluent du handisport, des projets vraiment sur les Jeux Olympiques, sur les valeurs. Et ils composent en fait leur projet dans leur école. Et nous, on est là soit pour les aider à déposer les projets, soit pour les mettre en valeur ensuite le jour J de leur événement.
Quelles actions finalement, alors peut-être quelques exemples, est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'actions qui vont être menées cette semaine, notamment dans la Loire?
Alors par exemple, donc si on part sur les villes, il y a la ville d'Andrézieux donc qui organise depuis quelques années déjà sa semaine olympique et paralympique. Je parle d'Andrézieux puisque je suis domiciliée à Andrézieux. Mmh. Donc aujourd'hui, pour exemple, ils avaient rassemblé toutes les écoles de la ville pour une chasse aux œufs sportives, donc en référence à Pâques, où les enfants devaient trouver des petits objets dans la nature et les ramener pour ensuite avoir un petit chocolat en récompense. Donc c'est le petit lot qu'ils offrent à la fin. Vendredi, par exemple, ils font aussi du baby athlée. Il y a tout un programme sur la semaine. Après, il y a des programmes portés par les écoles. Donc on peut avoir Terre Noire aussi qui porte des projets régulièrement. Les écoles de Saint-Étienne qui sont assez porteuses aussi de projets. Donc là, c'est plus des activités un petit peu dans l'école, avec un temps un peu de défilé pour rappeler les Jeux Olympiques avec les enfants. Donc ils viennent bien préparer ça à l'avance, avec des fois des confections de drapeaux ou de flammes aussi pour rappeler le relais de la flamme. Et toute la journée ou toute la semaine, en fonction des écoles, est rythmée vraiment sur les Jeux Olympiques. Donc ils prévoient aussi pas mal d'activités handisportives. Donc on peut voir du goalball, enfin du basket fauteuil qui peuvent être pratiqués. L'UNSS aussi a pas mal de projets là-dessus. Donc sur le fauteuil, ils ont acquis des fauteuils assez récemment, et c'est vrai que ça permet de voir un large spectre sur tous les sports vraiment et toutes les valeurs sportives qui nous anime tous en fait.
Merci beaucoup Karine Charles, la chargée de communication au comité départemental olympique et sportif de la Loire, et également ambassadrice de cette semaine olympique et paralympique qui se tient jusqu'au 6 avril un peu partout en France, mais évidemment notamment dans la Loire. Et si vous avez envie d'en savoir plus, il y a un site qui existe, generation.paris2024.org. Merci beaucoup Karine Charles, et bonne semaine olympique et paralympique. Merci aussi à vous Rodolphe Montagnier.
Avec grand plaisir.
Toujours ce sourire, ce foie. Ouah, quoi. Voilà.
C'est ça.
Merci, Gaëlle, également.
Merci à vous.
Et à très bientôt dans 100% Synthé. Dans un instant, on parle de lancer de 10, de lancer de poids avec Ligérène qui brille. Elle est licenciée à Rouen. Amanda Ngandou Ntumba, un des grands espoirs pour les JO. Elle n'est pas encore requalifiée. Croise les doigts. C'est juste après Survivor. Et Yad. Et Eye of the Tiger sur France de Saint-Étienne.
Now I'm back.
Survivor sur France Bleu, Saint-Étienne-Loire, 18h50. Allez, dans 100% Synthé, on parle maintenant d'athlétisme, à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, et nous sommes avec Amanda Ngondou Toumba sur France Bleu Saint-Étienne. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, content de vous avoir sur France Bleu. Les dernières semaines ont été riches, chargées pour vous, Amanda. Je rappelle que vous êtes lanceuse de disques et de poids licenciée au club athlétique du Rouennais. On va commencer par la dernière actu. C'était le 10 mars dernier. Vous participiez à la Coupe d'Europe des lancers au Portugal. Et vous avez battu votre record au disque. Vous avez passé les 60 mètres. Vous devenez donc la cinquième française à franchir cette distance. Donc, vous entrez dans une sorte de club privé. Quel est votre sentiment après cette performance-là?
C'est déjà un grand soulagement parce que c'était une barrière que j'ai cherché à passer pendant des années. La première fois que j'ai passé la barre des 59 mètres, c'était en 2021, quelque chose comme ça. Donc ça date quand même de 3 ans. Et en fait, d'année en année, je m'en suis rapprochée, mais je les ai jamais vraiment dépassées. Et là, franchement, c'est un vrai soulagement. Je me dis que ce cap est passé, et puis il y a moyen encore d'aller plus loin.
Alors, pour ceux qui ne suivent pas forcément l'athlétisme de près et les records, etc., pourquoi cette barre de 60 mètres, elle est si importante?
On va dire que c'est un certain niveau de performance qui commence à parler, surtout au niveau international. Quand on est on peut se dire que c'est qu'un mètre entre les deux, mais dans la tête des gens, dans le milieu en tout cas, 60 mètres, c'est là où ça commence à être vraiment des performances qui sont haute, quoi, en fait. Et du coup, moi, j'avais mon record à 59 mètres 91, mais c'était 59 mètres, mais pas 60 mètres. Et là, du coup, je peux dire que que ça y est.
Ça y est, vous y êtes, vous avez passé les 60 mètres. La performance a été faite donc au Portugal. Et quelques jours avant, vous aviez fait un lancer un peu moins loin. C'était un lancer quand même important, puisque ça vous a permis de remporter la médaille d'argent au championnat de France. Toujours en disque.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'était un petit peu moins. C'était un petit peu moins loin. On était sur j'étais à 57 mètres. Après, les conditions, c'était pas non plus les mêmes qu'au Portugal. Et puis cette saison, elle a été un petit peu compliquée hivernale parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver mes marques. Donc même par rapport à l'année dernière, elles étaient plus basses. J'étais vraiment encore dans cette période d'essayer de retrouver déjà mes marques et d'être à l'aise dans mon lancer et pour après pouvoir être vraiment compétitive, quoi.
Et justement, c'est quoi les conditions pour arriver à dépasser, à atteindre cette barre des 60 mètres? Comment vous étiez justement au Portugal? Quelles étaient les conditions, les vôtres, mais aussi peut-être autour, puisque ça se joue en extérieur? Comment ça se passe?
Oui, en fait, il y a beaucoup de critères qui peuvent rentrer en compte. Quand je dis qu'au championnat de France, c'était des mauvaises conditions, c'est qu'il pleuvait, il faisait pas beau. Quand il pleut, quand il fait pas très beau, on est souvent plus contracté que quand il fait grand soleil et on est plus relâché. Et pour le disque, il faut être très relâché, en fait, pour lancer loin. Aussi, s'il pleut, le plateau il peut glisser un petit peu, donc on peut pas être sûr de nos appuis et donc encore moins à l'aise dans nos lancers. Le froid, ça peut jouer, etc. Donc il y a tout ça. Et en fait, au Portugal, déjà il faisait un peu plus chaud, soleil, et il y avait aussi des bonnes conditions au niveau du vent, parce qu'au disque c'est aussi un aspect qui peut vraiment aider. Si le vent est bien, on peut lancer très loin.
Alors, si je continue à remonter un petit peu le temps, de quelques semaines, mi-février, cette fois-ci au lancer de poids, il y a le titre de championne de France.
Oui, le 7e.
Ça, c'est quand même un signe que cette année 2024, je sais pas comment vous le vivez vous, mais elle a l'air de se passer plutôt bien. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner.
Ouais, pour le moment, c'est surtout une bonne clôture de saison. Avec ce dernier record, mais c'est vrai que maintenir ce titre au poids, c'est quelque chose qui a fait du bien C'était surtout, ça a surtout fait du bien au moral, en fait, dans un premier temps. Et puis, le disque, ça a encore concrétisé des choses, quoi.
Et pour les Jeux Olympiques, est-ce que ces résultats-là comptent, ont compté, vont compter ?
Les résultats au disque, oui. Après, pour les Jeux Olympiques, j'aimerais me qualifier surtout au disque. Donc, le poids, je suis moins bien placé sur le plan international. Donc, je le fais vraiment juste un peu pour le fun. Mais vraiment, ouais, c'est au disque que ça va vraiment compter.
À quel moment le choix sera pris, justement, pour le lancer disque ?
C'est jusqu'au... Enfin, la dernière compète, donc c'est jusqu'au championnat de France, et ils auront lieu fin juin. Donc, ce sera vraiment juste avant les Jeux.
Mais en tout cas, ces résultats-là, ce record au lancer de disque, cette médaille d'argent également, cette bonne augure, ça vous permet de vous mettre dans les bonnes conditions pour le mois de juin, justement.
Ouais, après, il faut savoir qu'il y a quand même entre 10 et 15 compètes qui se préparent pour la saison estivale. Donc, rien n'est joué encore. Et en fait, pour les critères de sélection, il faut se qualifier dans les 32 premières mondiales ou 24. Le classement, il se joue sur un nombre de points. Et ça se joue sur, en fait, les cinq meilleures performances. Donc là, les 60 mètres, ça m'a permis d'en valider une. Et je peux encore m'améliorer sur 4 autres performances. Donc, c'est le but dans les mois prochains.
Et bon, on croise les doigts pour vous et on espère que ça va bien se passer. En tout cas, c'est vrai que ces dernières semaines ont été prolifiques pour vous. Et encore félicitations à vous, Amanda Ngandou Tumba, du club athlétique du Rouennais, qui a donc passé la barre des 60 mètres, notamment lors de la dernière Coupe d'Europe des lancers. Et c'était au disque. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Amanda Ngandou Ntumba, l'invité de 100% Saint. Et demain, on parlera basket entre 18h30 et 19h, comme chaque mercredi dans 100% Saint-Cham. Et le joueur que nous recevons, c'est le meilleur joueur côté SCBVG du match contre Evreux, match remporté dans la douleur quand même. C'était un peu compliqué, mais on l'a eu celle-là. Elle fait du bien. Cyril Eliezer Vanero, demain dans 100% Saint-Cham, 18h30, 19h. À demain.